Classé comme monument historique depuis plus d'un siècle, le vieux château est un incontournable de l'île-Dieu. Situé sur la côte sauvage à l'ouest de l'île, cette bâtisse médiévale est riche en histoire. Pauline Geoffrey, guide conférencière au service patrimoine de l'île-Dieu, nous invite à découvrir ce château emblématique.
On n'a pas la date précise de la construction du château parce que là on est au Moyen-Âge et au Moyen-Âge il y a pas mal de textes qui ont été produits. Mais bah, y en a qui ont disparu depuis ou qui n'ont jamais été écrits. Alors comment on pourrait dater le vieux château? Ce serait si on avait des éléments qui nous parleraient de factures, si vous voulez, qui expliqueraient on a acheté telle pierre, on a payé des tailleurs de pierre, on a fait venir des tailleurs de pierre du continent. Il pourrait y avoir des documents seigneuriaux comme des terriers qui parleraient du château de l'île-Dieu. Malheureusement, on n'a rien de tout ça. Tout ce qu'on a, c'est des mentions d'un château dans des textes un petit peu plus récents, milieu du XIVe siècle, qui nous parlent de la guerre de Cent Ans et qui disent que le château est pris par les Anglais. Donc bah, s'il y a un château qui est pris par les Anglais, c'est qu'il y a un château. Donc on suppose qu'il a été construit au début du XIVe siècle. Et des investigations un petit peu plus poussées menées par les historiens locaux ont permis d'établir que le château doit sans doute être un projet de la famille de Belleville. Alors, je vais vous expliquer. La famille de Belleville, Belleville survit actuellement en Vendée, c'est la famille qui dirige l'île-Dieu à l'époque. Maurice V de Belleville est sans doute le seigneur qui a pris les premières dispositions pour construire le château. Mais ce monsieur, il n'a pas été seigneur très longtemps, il est décédé, et c'est sa sœur Jeanne de Belleville qui est devenue la dame de l'île-Dieu. Et il semblerait qu'elle a continué l'œuvre de son frère et qu'elle a été probablement une des personnes à l'origine de la construction du château. En tout cas, on retient plus facilement le nom de Jeanne que celui de son frère. Pourquoi ? Alors, outre la vie de Jeanne de Belleville, qui n'a rien à voir avec l'histoire du château, mais qui est quand même assez tumultueuse, hein, c'est digne d'un roman d'aventure, Jeanne, elle s'est mariée avec un seigneur breton, Olivier IV de Clisson. Donc Clisson, c'était en Bretagne à l'époque, mais c'est tout près de Belleville et de la seigneurie de Lagarnache, dont la famille de Belleville était les seigneurs. Clisson est en Bretagne, et Lagarnache, c'est dans le Poitou, mais dans ce qu'on appelle les marches de Bretagne, c'est-à-dire la partie du Poitou qui fait frontière avec la Bretagne. Et ces deux familles sont deux familles assez riches, parce qu'on fait du sel sur leur territoire notamment, qui vont s'allier par ce mariage et devenir quand même une famille assez puissante. Et Olivier de Clisson, on sait qu'il a par ailleurs, des tailleurs de pierre à son service qui vont travailler dans d'autres châteaux. Et c'est pour ça que si on donne une date pour la construction du château, on retient les dates de leur mariage souvent. On dit que en 1328, c'est sûr, on travaillait sur le château, c'est l'année de leur mariage. Et le château est terminé en 1343, c'est sûr, c'est l'année de la mort d'Olivier de Clisson. Et Jeanne perd ses terres cette année-là. Donc le château était fini à ce moment-là. Et par contre, Jeanne et Olivier se connaissaient très 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 bien avant leur mariage. Ils avaient une fille illégitime ensemble, donc ils se connaissaient très bien. Donc ça veut dire que Olivier, avant leur mariage, il a déjà pu apporter son soutien à Jeanne ou lui donner des contacts, à Jeanne ou même aux frères de celle-ci. Donc le château a commencé à être construit avant que Olivier soit le seigneur en titre de l'île-Dieu. Mais il a été quand même partie intégrante du projet. Il faut retenir Maurice V de Belleville, Jeanne de Belleville et Olivier IV de Clisson, ce sont eux qui ont fait construire le vieux château.
Un château peu commun car construit sur l'océan. Mais quels étaient les objectifs d'un tel projet ?
C'est un château qui a deux objectifs. Comme beaucoup de châteaux, c'est un lieu d'habitat. Dans ce château venaient vivre non pas le seigneur, parce qu'on l'a dit, hein, les Clisson ou les Belleville, c'était des gens plutôt riches. Ils avaient des plus jolis châteaux sur le continent, bien plus confortables et plus grands. Et plus modernes aussi, hein, enfin plus opulent, on va dire. Et par contre, il fallait quand même avoir quelqu'un sur cette île pour pouvoir la gérer, pour eux, la diriger pour eux. Donc le château, ça va être la maison, ça va être le siège du gouverneur de l'île-Dieu qui a une fonction militaire parce qu'il va diriger des soldats qui seraient au château et également une fonction d'administrateur parce qu'il va faire rentrer les impôts et rendre la justice sur l'île-Dieu. Donc ça, c'est la fonction première du château, c'est un lieu d'habitat pour ce monsieur et pour ses soldats. Mais qui dit soldat, dit fonction militaire aussi de ce château, qui est un château fort. Alors château fort, c'est pas un mot qu'on utilisait au Moyen-Âge, c'est un mot qu'on a inventé après. au 19e siècle. Mais ça explique bien à quoi servaient ces monuments du Moyen-Âge, ces forteresses qui étaient des châteaux, donc des lieux résidentiels, mais aussi des forts, des forteresses où il y avait toute une fonction militaire. Donc le château, il était là pour empêcher l'île-dieu d'être prise par des ennemis. C'est un peu compliqué, dit comme ça, mais il faut vous mettre dans la tête des gens du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, quand on voulait s'emparer d'un territoire, c'est pas juste le piller, hein, et puis repartir comme on est venu, mais s'installer dedans, on venait pas pour rester pour l'été parce qu'il faisait beau, hein, on venait s'installer pour plusieurs dizaines d'années, voire pour toujours. Et donc, il était impératif d'aller sur le château qui se trouvait dans la ville, dans le fief, dans la zone qu'on voulait conquérir, et en faire le siège et réussir à s'en emparer ou détruire le château et en construire un autre, mais faire en sorte que ce château tombe entre vos mains. Et là, vous pouviez vous dire, on est rendu, on a pris le fief, donc en l'occurrence, on a pris l'île-dieu. Il faut bien comprendre que au Moyen-Âge, l'île-dieu n'est pas un petit coin tout isolé au milieu de la mer où personne ne vient jamais. On est sur une route maritime fréquentée. Il y a pas mal de bateaux de commerce qui passent à l'île-dieu, qui s'arrêtent au port et qui payent une taxe. Donc c'est pour ça que c'est intéressant pour le seigneur, ça rapporte des sous. Et puis pour déplacer des troupes, si on a une guerre, c'est bien d'avoir des ports où on peut se mettre à l'abri des tempêtes et prendre de l'eau et de la nourriture. Donc c'est important d'avoir des alliés qui disposent de ports. Et les bateaux, ils abordaient sur la côte nord de l'île, nord et est, là où on a le moins de hauteur, là où il y a les plages de sable, où ils abordaient à Port-Joinville, qui s'appelait Port-Breton à l'époque. Ils abordaient pas sur la côte sauvage, là où il y a le vieux château, c'est beaucoup trop dangereux. Ils ne s'approchaient pas de cette côte, les bateaux, ils faisaient naufrage sinon. Alors on a décidé de mettre le château en plein sur la côte sauvage, comme ça ils étaient sûrs que les ennemis n'allaient pas l'attaquer par la mer. Et puis, comme vous l'avez dit, il est sur l'eau, c'est-à-dire qu'on a choisi un rocher qui était vraiment de la bonne taille pour construire le château et qui est complètement entouré par la mer à marée haute. Et s'il n'était pas à l'origine, qui était facile à isoler complètement pour faire un pont-levis ensuite pour accéder au château. Donc oui, il est placé là pour des raisons stratégiques militaires.
Un emplacement stratégique qui n'a pas empêché le château de se faire attaquer de nombreuses fois.
Il a été attaqué plusieurs fois. L'île a été attaquée plusieurs fois pendant la guerre de Cent Ans. Il y a une attaque très importante de la guerre de Cent Ans, c'est quand les Anglais prennent le château en 1355. Donc là, pour le coup, le château n'a pas rempli sa fonction jusqu'au bout parce que les ennemis ont réussi à le prendre. Ils vont s'installer dedans et ils vont y rester pendant 37 ans. Donc à l'époque, la personne qui défendait le vieux château, c'était un gouverneur nommé par le roi de France, parce que Jeanne de Belleville et son mari Olivier IV s'étaient alliés avec les Anglais et Olivier avait été tué. Et ensuite, leur terre leur avait été prise. Alors, est-ce que le gouverneur a vraiment été jusqu'au bout de sa défense du château, ou est-ce qu'il ne s'est pas laissé convaincre par un petit sac d'or de repartir tranquillement? On ne sait pas, on ne le saura jamais. En tout cas, les Anglais, eux, ils vont occuper l'île pendant 37 ans. Il y a probablement eu aussi des mouvements de troupes, peut-être la venue de soldats français pendant ces périodes-là, mais pas de grandes attaques. Il y en aura à nouveau au 15e siècle. À ce moment-là, l'île-dieu est redevenue française. Mais là, carrément, on va évacuer l'île au 15e siècle. Tout le monde s'en va et on abandonne l'île aux Anglais, qui ne vont pas choisir de s'y installer. Donc, on pourra revenir quelques semaines plus tard. Et la deuxième attaque vraiment importante sur laquelle on a des informations, elle arrive bien plus tard parce que c'est au XVIe siècle. Là, on n'est plus au Moyen-Âge, on est à la Renaissance. Le vieux château a été agrandi et modernisé parce qu'on a rajouté devant un nouveau rempart, ce qu'on appelle une ceinture bastionnée. Donc c'est le rempart en forme de demi-étoile qu'il y a devant le château, toujours côté terre. Et derrière ce rempart, il y avait des canons. Et là, ce sont des soldats espagnols qui vont venir attaquer l'île-dieu et qui vont vouloir, encore une fois, s'installer sur l'île-dieu. Donc les bateaux espagnols arrivent par la côte sableuse, ils marchent jusqu'au château, et là, ils établissent un siège, et ils seraient restés pendant un mois. Ils avaient des canons, et ils étaient un millier, mais ils n'ont jamais réussi à prendre le château. Ils n'ont pas passé les bastions. Donc ils étaient pourtant motivés, hein, parce qu'à l'époque, le roi d'Espagne, Charles Quint, c'était l'ennemi du roi français François Ier, ils étaient vraiment toujours en guerre, Et il avait aussi l'empire, ce qu'on appelle le Saint-Empire germanique, donc l'équivalent de la Belgique, de la Hollande et d'une partie de l'Allemagne actuelle. Donc entre l'Espagne et la Hollande, l'île-Dieu, c'était un port qui était très intéressant. C'est pour ça qu'il avait mis autant de monde pour essayer de prendre le château de l'île-Dieu. Mais ça n'a pas marché. Alors au XVIIe siècle, on va décider de l'abandonner. Là, on est sous le règne de Louis XIV et les canons sont devenus beaucoup plus performants. Et comme ce château, il n'est pas prévu pour se défendre du côté de la mer, et que maintenant les bateaux équipés de canons modernes peuvent le toucher du côté de la mer, on décide qu'il est obsolète, hein, il n'est plus du tout utile. On préfère l'abandonner et on va essayer de mieux défendre l'île-Dieu en faisant des forts sur les côtes. Et notamment sur la côte la plus sensible, qui était encore et toujours la côte avec les plages de sable. Bon, cette défense par les forts, ça va pas être très 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 bien entretenu, très bien suivi d'effet. Mais on ne va pas réinvestir le vieux château pour autant. Il est vraiment considéré comme trop vieux. Le gouverneur de l'île, on lui a fait construire une belle maison à Saint-Sauveur, qui n'est pas celle à laquelle vous pensez. Elle était à côté de l'église. Celle à laquelle vous pensez, c'est le procureur fiscal. Donc le seigneur de l'île-Dieu de l'époque, il va créer deux fonctions. Il y a le gouverneur qui s'occupe que du côté militaire et le procureur fiscal qui s'occupe de faire rentrer les impôts. Donc ça montre quand même que le seigneur mettait des moyens à l'île-Dieu pour la protéger, mais aussi pour bien administrer l'île et vérifier que tout se passait selon ses intérêts. Et puis bah, ce château qui était là sur la côte, qui servait plus à rien, au bout d'un moment, ça va poser problème à Louis XIV. Il va dire, bon, bah écoutez. Là, on a un château médiéval, il est tout à côté de la mer. Les Anglais sont quand même assez présents dans ces eaux-là. On va casser le château, comme ça on est sûr qu'ils ne viendront pas se mettre dedans et nous enquiquiner. Et c'est ce qui s'est passé au vieux château, c'est pourquoi il est en ruine.
Après la destruction du château, plusieurs programmes de rénovation se sont enchaînés au fil du temps, comme nous le rappelle Pauline Geoffrey du service patrimoine.
Il y a eu beaucoup de rénovations dans le château. Il a été classé monument historique en 1890. Et on a commencé à le restaurer dans les années qui ont suivi, en 1895. On a continué dans les années 1930, on a continué dans les années 60, 70, quand on a dégagé les bâtiments de la cour. On a continué dans les années 80 à restaurer le mur est, donc le rempart entre les deux tours principales. On a restauré la tour sud dans les années 80. On a sécurisé le haut du chemin de ronde dans les années 2000 pour pouvoir circuler. L'année dernière, on a commencé une campagne de restauration des maçonneries intérieures au niveau notamment de la tour principale, qui est juste à l'entrée du château. On a prévu encore de continuer ces rénovations des maçonneries cet hiver, donc fin 2021 probablement. Et on va donner un petit coup de neuf à la passerelle du vieux château qui date de 2008.
Au cours de son histoire, le château a fait l'œuvre de plusieurs mythes et légendes.
Il y a une légende, mais je la connais pas très bien parce que je crois que c'est pas une vraie légende. C'est-à-dire que c'est plutôt une nouvelle que quelqu'un a rédigée à un moment donné, je sais pas trop quand, d'ailleurs dans les années 60 peut-être bien, et qui raconte qu'une jeune fille avait été enfermée dans la tour du château par une méchante sorcière et elle va essayer de s'enfuir avec un jeune pêcheur de l'île-Dieu. Et ils sont poursuivis par les Anglais, puisque la légende, enfin l'histoire se passe pendant la guerre de Cent Ans. Et malheureusement pour eux, en essayant de leur échapper, ils vont se noyer et disparaître. Je pense que cette petite histoire-là, cette petite nouvelle qui a été inventée autour du château, est née à cause de la découverte d'un squelette dans le château. En 1895, quand ils ont commencé les travaux, dans la tour principale, on a retrouvé un squelette qui semblerait-il était celui d'une jeune femme. Ça se voit par rapport à la forme des os du bassin. Et jeune, ça se voit par rapport à l'état des os, en fait. Il y a une façon de voir ça. Et du coup, ils n'ont jamais su qui était cette jeune femme. Alors, dans la réalité, elle n'était pas là depuis le Moyen-Âge, cette jeune femme, parce qu'il semblerait que le squelette était au-dessus des gravats.
Plus de 5 siècles d'une histoire très riche à découvrir ou redécouvrir de nos jours.
Aujourd'hui, en plus des campagnes de restauration dont il continue de faire l'objet, c'est un site où nous organisons des visites guidées d'avril à septembre, quand le Covid nous le permet. On a prévu de rouvrir le château en avril, pour les vacances de Pâques, et de l'ouvrir pour faire des visites guidées ou des visites en autonomie au moins 3 jours par semaine. Donc c'est notre programme habituel, on va dire. On fait ça quand même depuis pas mal d'années. Et puis, on aura une nouveauté cette année, c'est une visite guidée qui s'appelle l'enquête au vieux château et qui s'adresse aux adolescents, parce que ce n'est pas vraiment une visite guidée classique, c'est des explications avec des énigmes à résoudre et un petit parcours à suivre dans le château pour essayer de comprendre qui a vendu le château aux Anglais en 1355.
Merci Pauline Geoffry, guide conférencière au service patrimoine de la mairie de L'Île-Dieu. Les dates et les heures des visites sont à retrouver sur le site internet de l'Office du tourisme de L'Île-Dieu, île-dieu.fr.